Alors bonjour Nadia Dame, vous êtes journaliste et autrice et parmi vos combats, ceux qui reviennent régulièrement sont les injonctions faites aux femmes, aux mères et aux filles. La gosse, c'est la vôtre de fille et d'ailleurs vous avez une obsession, non pas pour la famille, mais pour les familles. Surtout celles des autres, celles qu'on imagine à travers les fenêtres, par exemple, quand on passe dans la rue. Alors d'où est-ce que ça vous vient?
En fait, moi j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que j'étais... Moi je pensais que tout le monde avait la même obsession que moi pour les familles des autres et moi je le raconte dans le livre que quand j'étais invitée à dormir chez des amis, chez une amie, alors déjà ma mère voulait pas donc il fallait batailler un peu pour ça et que j'étais voilà très très avide des petits détails de la vie des autres, comment est-ce qu'ils dorment, j'ouvrais le frigo pour voir ce qu'ils mangeaient, etc. Et que ça m'a poursuivie aussi à l'âge adulte où j'ai envie de faire ce truc très bizarre et un peu inquiétant comme ça, mais quand je déposais ma fille à l'école le matin, j'avais envie de suivre les autres mères pour voir à quoi ressemblait leur journée. Et donc je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, et je me suis rendu compte que non, que j'avais peut-être un problème, et que oui, tout le monde partageait pas ce goût pour les familles des autres. J'ai envie de voir ce qui se passe une fois que les gens ferment la porte.
C'est vrai que quand on est enfant, on a l'impression que ce qui se passe chez nous, c'est la règle pour tout le monde. C'est la même loi partout.
Oui, oui, et puis on imagine que tout le monde partage plus ou moins les mêmes réalités socio-économiques, les mêmes règles de vie, etc. Il y a l'école, évidemment, qui sert de fenêtre sur l'extérieur, mais c'est vraiment plus au moment de l'adolescence, je crois, qu'on se rend compte qu'il existe d'autres vies que la nôtre. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé, moi, et ce que j'ai observé auprès de ma propre fille.
Il y a un passage assez touchant dans le livre où la gosse, justement, votre fille, demande à combien ça commence une famille. Alors là, évidemment, vous lui répondez deux, parce que vous êtes une famille. Mais on sent qu'au fond de vous, c'est pas vraiment ce que vous ressentez. Comment ouais. est-ce que vous définiriez le lien qui vous unit, votre duo?
Oui, c'est toujours la question du vocabulaire et de comment est-ce qu'on nomme les choses et comment est-ce qu'on nomme les familles. Alors là, quand même, en 2024, les choses sont en train de changer. On commence à envisager d'autres manières de faire famille. Et d'ailleurs, on emploie l'expression faire famille oui. et non plus seulement être une famille. Mais c'est vrai que c'est très difficile de se situer. Moi j'ai un problème par exemple avec l'expression famille monoparentale, je trouve que ça dit tout et rien. Je déteste l'expression maman solo ou mère solo parce que ça donne comme ça l'impression d'un truc très très joyeux ou très... C'est ma fille qui disait maman solo c'est un nom de pizza, c'est pas un nom de situation. Je dis oui, c'est vrai.
Plutôt Wonder Woman aussi,
oui,
le côté
qui est une autre injonction en fait, ouais. Voilà, on est une mère courage, etc. Et donc c'est effectivement, c'était très difficile de situer ma fille et la géométrie de notre famille. Donc quand elle m'a posé la question, quand elle m'a demandé est-ce qu'on est une famille, à quoi est-ce qu'on ressemble, d'abord très souvent j'ai fait semblant de pas avoir entendu la question parce que je savais pas quoi répondre, et puis je lui ai répondu oui, qu'en effet une famille ça commençait à deux et que on n'est pas nécessairement amputé de quelque chose. Alors je précise que donc le père de ma fille est décédé, mais que c'est pas une amputation, c'est pas une soustraction d'être deux, c'est bien, et deux on est déjà une famille.
Alors il y a cette scène au début du film où vous passez deux semaines emmitouflées sous une couette l'une contre l'autre, une couette que vous avez érigée en cabane, c'est le moment justement où le père de votre fille décède, et je trouve que cette ouverture de livre illustre très bien justement cette complicité affectueuse et fusionnelle que vous avez avec elle.
Oui, oui, la cabane c'est une image bien sûr, sauf que là en l'occurrence c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire le père de ma fille meurt, elle a 11 ans, évidemment ce sont des circonstances absolument tragiques qui moi m'ont laissé un peu désemparée, je ne savais pas comment accompagner ma fille dans ce deuil-là, et la première solution qu'on a trouvée c'est de nous calfeutrer chez nous. D'abord on est très peu sortis, je raconte qu'on se faisait livrer de la nourriture mexicaine, allez savoir pourquoi, mais voilà, on se nourrissait exclusivement de nachos et de guacamole, et j'avais construit cette petite cabane dans le salon qu'elle me réclamait depuis très longtemps et que j'avais toujours refusé, avec une housse de couette et des manches à balai. Et on était, terrés. Et après deux semaines, on a fini par sortir, revoir le monde. Mais cette cabane, elle représente d'une certaine manière notre relation à toutes les deux, quelque chose de très fusionnel. Mais j'ai envie de déconstruire un peu ce qu'on met souvent derrière le mot fusionnel. Et de manière générale, dans la relation mère-fille, on a tendance à beaucoup, beaucoup la pathologiser. On est censé avoir tous des problèmes avec nos mères. Et en fait, non, parfois, la relation, elle peut être beaucoup plus belle et beaucoup plus douce que ça.
Et quand son père était encore là, vous partagiez, bien qu'étant séparés, c'est ça vous partagiez avec intensité et ferveur toutes ces choses insignifiantes pour qui n'est pas le parent. Voilà. Et il suffit pas d'être parent, il faut vraiment être le parent du bébé pour être vraiment émerveillé. Par exemple, vous écrivez, quand tu dis qu'elle a fait une grimace en buvant de la badoit, c'était une grimace de quel type? Ouais, exactement. Ouais. On veut absolument tous les détails. Alors, quand on devient parent, est-ce qu'on devient un peu obsessionnel, un peu monofocus sur bébé?
Bah, en tout cas, moi, c'était mon cas. Je peux pas décrire la parentalité comme ça de manière monolithique, mais moi, j'ai été, de toute façon, j'ai un tempérament très, très obsessionnel et j'avais vraiment cette idée dès sa naissance d'archiver sa vie, de documenter sa vie. Alors, je précise qu'elle a 18 ans aujourd'hui. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, etc. J'avais même pas de téléphone qui prenait des photos. Mais j'avais besoin de garder une trace de tout et d'avoir la mémoire de tout. Et ça passait, en effet, par cette documentation intense. Donc, elle était une semaine chez son père, une semaine avec moi. Et c'est pas rien d'avoir sa fille que la moitié du temps. Donc je harcelais son père pour savoir combien de cuillères de carottes elle avait mangé, ce qu'elle portait, etc. Et en fait, ça m'est utile parce que quand les enfants grandissent, ils ont évidemment pas la mémoire de leurs premières années, mais à l'adolescence, en tout cas c'est le cas de ma fille, elle me pose beaucoup de questions sur son enfance. Et comme j'avais tout consigné dans des cahiers, comme j'avais pris quand même beaucoup de photos, je suis capable de lui restituer ses premières années de vie.
C'est vrai que les ados aiment beaucoup se replonger dans les albums aussi de quand ils étaient bébés. Et le fil conducteur de la gosse, c'est donc l'adolescence de votre fille. Et selon vous, quelle est la principale différence entre les adolescentes d'aujourd'hui et celles qu'on était, nous, dans les années 90? Si tant est qu'on puisse mettre toutes les adolescentes dans le même sac d'une décennie. Mais...
Alors, c'est là que je vais sortir ma grosse casquette de boumeuse. Oui, j'ai 45 ans, mais je suis une grosse boumeuse. Je le redis, je pense que les réseaux sociaux, ça change tout. Alors déjà, moi, j'aurais détesté, je l'ai dit un peu plus tôt dans la journée, mais j'aurais détesté être mère aujourd'hui, à l'heure d'Instagram, de TikTok, c'est-à-dire avec cette manière d'exposer, de surexposer, de surdocumenter, là, pour le coup, sa vie. Mais je pense que c'est aussi assez désastreux pour les adolescentes. Ma fille, elle est un peu plus grande maintenant, mais je me rappelle qu'elle a passé quand même un temps infini sur Instagram, sur les réseaux, à se scruter, à se comparer. En général, quand on se compare, c'est plutôt en sa défaveur. Donc j'ai l'impression que ça, pour le coup, c'est arrangé dans la colonne des moins. En revanche, il y a quelque chose qui a changé et que je raconte aussi dans le livre, c'est la manière d'être une fille aujourd'hui par rapport à ce qui se passait quand moi j'étais adolescente. Nous, quand on était ados, entre filles, on était beaucoup dans l'autodénigrement et dans le dénigrement de l'autre fille. On clamait à qui voulait l'entendre qu'on s'entendait qu'avec les garçons, que qu'on était très masculine, qu'on jouait au foot, qu'on aimait que les trucs de filles, c'était des trucs un peu bêtes. Et j'ai l'impression, c'est ce que j'observe auprès de ma fille, que les filles endossent aujourd'hui ce qu'on appelle la sororité et qu'on sait pas toujours très bien définir, mais elles sont davantage solidaires et elles ont pas, ce truc de vouloir à tout prix séduire les garçons aux dépens d'autres filles, je pense.
Excusez-moi. Il y a quelque chose que vous aimez beaucoup chez votre fille, quand même. Et ça, c'est je me suis mal exprimée, mais il y a quelque chose que vous admirez quand même, c'est son côté judiciaire. Voilà, j'ai relevé un petit passage où elle dit « Un élève est collé pour un retard, elle est prête à fomenter un putsch contre le CPE, une de ses copines dit être maltraitée par la nouvelle petite amie de son père, elle imagine 1000 supplices à infliger à l'odieuse Beldoche. » Et ça, c'est quelque chose propre à l'adolescence aussi.
Oui, bien sûr, déjà de fliquer ses propres parents, et puis d'avoir un sens aigu de la justice. Je n'ai pas tellement souvenir, moi, d'avoir été comme ça adolescente, mais encore une fois, les ados que j'observe, c'est-à-dire ma fille, et ses amis, ce qui est un échantillon assez représentatif dans la mesure où elles sont une cinquantaine à venir à la maison à chaque fois. Et je vois qu'en effet, elles se mobilisent beaucoup. Elles signent des pétitions, elles sont vraiment du côté de la justice. Parfois, à nos dépens, à nous en tant que parents, mais c'est un phénomène assez réjouissant à observer. Et puis, il se trouve que le contexte, l'environnement, le contexte politique fait que les adolescents sont peut-être plus politisés aujourd'hui. On a tendance à le déplorer. Moi, ça a plutôt tendance à me réjouir.
Mmh. Et je parlais de vos combats en début d'interview. Et que ce soit dans vos précédents ouvrages, vos émissions, vos chroniques, votre ligne conductrice est l'expression de la vérité. Vs les masques de femme ou de mère parfaite, justement. Et à quel moment de votre vie, puisque celle de votre fille vous renvoie à la vôtre. Est-ce que vous êtes rendu compte qu'on ne pouvait pas tout dire, que notre façon d'être nous était imposée?
Je sais même pas si j'ai fini par me le dire. Et pourtant, c'est pas faute d'en parler beaucoup avec mon psy, ça aussi j'en parle souvent, mais non, je saurais pas le dire, mais la question de la vérité, elle me semble vraiment majeure, et la vérité qu'on se doit à soi-même, et ne pas se mentir, et pas mentir aux autres sur ce qu'on est. Quand je parlais tout à l'heure de mon envie de vouloir suivre les autres mamans pour voir comment ça se passait chez elles, c'est parce qu'on est persuadé que les autres font mieux, et que les autres mères font mieux, que les autres femmes font mieux, qu'elles cumulent mieux le travail et la famille, enfin qu'elles se débrouillent mieux dans leur vie de manière générale. Sauf que si on commençait à être un tout petit peu plus transparent, quitte à ce que ce soit pas un portrait très flatteur, hein, moi je me flatte pas beaucoup dans ce livre, je pense que tout le monde, on parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui, je pense que tout le monde serait beaucoup mieux dans ses pompes.
Et pour terminer cet entretien, l'ultime question serait évidemment, qu'a pensé Sacha de votre livre?
Vous avez dévoilé son prénom alors qu'il fallait jusqu'à la fin du livre, je le donne à la toute fin.
C'est vrai qu'à un moment donné, vous donnez un indice et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être?
Ce qu'elle en a pensé, alors de toute façon, je l'ai beaucoup, elle m'a beaucoup accompagnée pendant l'écriture de ce livre, pour une raison très simple, c'est qu'on habite un appartement parisien, c'est-à-dire exigu, et que donc c'est impossible d'avoir une activité secrète comme écrire un livre sans que l'autre personne, le cohabitante, soit au courant. Donc elle était toujours un petit peu dans les parages, elle lisait par-dessus mon épaule, et elle m'a demandé, elle a même exigé, de pouvoir relire le texte au fur et à mesure que je l'écrivais. Mmh. Et elle me donnait son avis, parfois impitoyable. Donc elle l'a lu comme ça par petits bouts, et puis elle a fini par le lire au moment de sa publication, et elle était très émue. Mmh. Et surtout, elle a exprimé un sentiment qui, moi, m'a bouleversée. Elle m'a dit qu'elle était très fière de moi. Et quand on est parent d'adolescent, c'est assez rare d'entendre votre enfant dire qu'il est fier de vous, alors que d'habitude, il a plutôt tendance à vous cacher dans un coin ou essayer de vous semer dans la rue.
Merci beaucoup, Nadia Dame.
C'est moi qui vous remercie.
Votre livre Lagos est paru aux éditions Grasset.
Merci.